Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour, je m'appelle Alice Vacher et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Deschamps, directeur général de Nespresso France. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte. Je pense qu'on est tous, on boit tous un petit peu, pas ceux, sauf ceux qui n'aiment pas le café, on a tous une machine à café chez soi, donc tu fais un peu partie de la famille.
C'est gentil, merci. Mais vous n'êtes pas assez encore.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais alors, avant de nous parler de Nespresso, de ton poste, de ton rôle, de tout ça, moi j'ai envie de revenir sur toi. Tu peux remonter à l'école, la primaire, tout ce que tu veux, tu me dis tout ce que tu veux me dire de toi, tes passions. Voilà, j'ai envie de tout savoir.
Très bien. Non, mais je suis quelqu'un d'absolument normal, une enfance classique.
Bonne élève.
Bonne élève, dans une famille avec beaucoup d'amour. Donc non, jusque là.
Facile.
Ouais, plutôt facile. Et puis j'ai fait beaucoup de rugby. Voilà, c'est ça qui m'a caractérisé mon enfance, parce que depuis l'âge de 7 ans, je joue au rugby et jusqu'à l'âge de 20 ans.
Et tu voulais pas devenir pro?
Bah, j'aurais bien voulu, mais je crois qu'à la fin j'étais pas assez sérieux, quoi. J'allais pas assez à la salle de musculation et ouais. Et puis après avec les études quand même c'est toujours un peu difficile. Sauf que moi je suis charentais, je suis d'Angoulême, donc après j'ai fait mes études à Bordeaux, donc pour revenir jouer c'était pas très facile.
L'UBB.
J'ai joué un peu au Stade Bordelais une année, mais bon après j'ai commencé à travailler et comme j'arrivais très abîmé en fait au travail, mon patron de l'époque m'a dit écoute il va falloir faire un choix parce que tu peux pas te présenter comme ça devant les clients, quoi. Donc après,
des balafres.
Et j'ai senti que j'avais plus de potentiel finalement dans le travail que peut-être que dans le rugby. Donc ça a été finalement un choix qui s'est un peu imposé à moi. Mais c'est vrai que c'est un regret pour moi. J'aurais bien voulu aller un peu plus loin.
Et
dans
tu
le rugby.
Joues plus du tout, du tout.
Alors j'ai fait l'immense erreur de reprendre il y a 3-4 ans là, sous la pression d'un de mes amis avec les anciens du Stade Français et en fait le premier match que j'ai fait je me suis un peu fêlé une côte, le deuxième match j'ai eu 14 points de suture à l'œil et je me suis rendu compte que c'était vraiment derrière moi quoi, qu'il fallait que j'oublie quoi. Mais ça faisait je sais pas 20 ans que j'avais pas joué et que je rêvais toutes les nuits que je jouais donc
il fallait que j'y retourne quoi.
Ouais, il fallait que j'y retourne, mais c'est surtout que je croyais que j'étais aussi en forme qu'avant quoi.
Du coup, ces valeurs du rugby dans ton travail, ça t'a aidé, ça t'a inspiré pour des choses ?
Oui, bah énormément parce que le rugby c'est un sport collectif. Et moi, j'ai souvent été capitaine de l'équipe quand j'étais gamin. Et en fait, j'ai appris que on parlait pas à tous les gens de la même manière. Dans le vestiaire avant d'entrer sur le terrain, on motive pas les gens de la même manière. Il y a des gens ils veulent rester seuls, d'autres au contraire, il faut un peu les pousser. Enfin, et pas seulement avant d'entrer sur le terrain, mais dans la vie de groupe en général, il y a une manière d'interagir avec les gens. Et j'ai vraiment appris ça en fait. Et puis au fur et à mesure de tous mes entraîneurs et puis toutes les dirigeants que j'ai pu avoir, j'ai appris énormément de choses sur le management des hommes quoi. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite en fait. C'est après en travaillant.
En fait, c'est des valeurs qui sont ancrées en toi
ouais,
aussi.
Ouais, c'est ça. Parce que sur le coup, je me suis pas dit ça me servira le jour où je travaillerai quoi. C'est plutôt après
les balafres,
quand
les côtes cassées.
Après, dans le travail, je me suis rendu compte que j'avais des repères quoi, assez simples et assez innés en fait quoi. Et ça venait vraiment de cette partie-là.
Ouais, mais moi en plus je suis ambassadrice pour la Coupe du Monde de rugby là en 2023 en France. Félicitations, je sais pas, mais c'est vrai que du coup les valeurs du rugby, puisque je ne suis pas rugbywoman, me parlent beaucoup aussi sur d'un point de vue managérial.
Alors je sais pas si c'est spécifique au rugby, mais c'est quelque chose qui est spécifique au sport collectif quand même en général quoi. Je veux dire, il y a quand même la dynamique de groupe et c'est pas uniquement dans le rugby.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais du coup, donc si on met donc quand tu as décidé du coup de te raisonner, dirons-nous. Et de reçu un cursus plus conventionnel. Tu as commencé où ?
Alors j'ai commencé chez Nespresso. Donc directement. Voilà, j'étais en école de commerce à Bordeaux et puis il y a eu chercher mon stage de fin d'études.
Et c'est une marque qui te parlait.
Alors, je vais te raconter, tu vas voir. Donc j'ai vu l'annonce donc ils cherchaient un responsable commercial sur le sud-ouest de la France et en fait, j'ai vu le nom Nespresso, jamais entendu parler et je me suis dit quand même pour préparer l'entretien,
je vais
quand même aller me renseigner sur les produits et j'ai pas trouvé les produits.
C'était en quelle année?
1995. Donc il y en avait nulle part et donc je suis arrivé à l'entretien, j'étais pas très bien préparé du coup, donc j'ai dit
tu buvais du café au moins ou pas?
Oui, je buvais du café mais pas du Nespresso et j'ai dit au directeur général, écoutez, je suis vraiment désolé, je n'ai aucune idée de quoi il s'agit en fait puisque j'ai pas trouvé les produits, je suis allé en hypermarché, j'ai regardé et il m'a dit ah, mais c'est normal, on n'est pas distribué en hypermarché et puis il m'a expliqué le système en fait, ces machines qui fonctionnaient avec des capsules, les machines elles étaient distribuées nulle part, c'est pour ça qu'ils cherchaient un responsable commercial, c'était pour créer le réseau de distribution, donc c'est un peu normal que je les trouve pas. Et puis le café, il était vendu uniquement par téléphone et fax, hein, on commandait par téléphone et par fax, il n'y avait pas de boutique, il n'y avait pas d'internet à l'époque, et on livrait par la poste, donc j'avais aucune chance de trouver les produits. Donc ce qui était bien, parce qu'il m'en a pas voulu.
Ça a eu des sorts,
pas sûr que j'ai fait un très bon entretien d'ailleurs, mais il m'a recruté parce que je faisais du rugby et c'était un sportif, quoi. Donc c'est marrant parce qu'il m'a recruté pour le rugby et il m'a demandé d'arrêter après. Donc c'est
assez... Oui, parce que je pense quand même il savait du coup.
Exactement.
L'intensité du jeu. Donc Nespresso vient de loin, donc t'as vu tous les sorts, toi.
Ouais. Alors moi, voilà, quand je suis rentré, on était une vingtaine et il fallait. Moi, j'ai commencé à créer le réseau de distribution dans le sud-ouest de la France, donc il fallait arriver à convaincre les gens de distribuer le produit, hein, de vendre le produit. Et c'était pas facile parce qu'on avait que des contraintes en fait, des machines qui étaient assez chères, des capsules qui étaient assez chères. Pas une marque inconnue, commandée par téléphone et par fax, et puis livraison par la poste, donc il n'y avait pas grand chose pour nous, quoi. Il y avait un seul truc qui était vraiment, qui faisait toute la différence, c'est qu'on faisait goûter le produit et les gens faisaient waouh.
Ouais,
On arrivait quand même à trouver quelques personnes qui disaient, j'y vais malgré toutes les contraintes. Avec une peur, c'était, et si vous arrêtez de commercialiser les capsules, parce que comme on était une nouvelle marque et qu'on était inconnu, ils disaient, mais si jamais j'achète une machine et qu'ils arrêtent, je fais quoi avec ma machine?
Ouais, et puis au-delà de ça, en fait, tu changes une habitude. Parce que les gens avaient l'habitude de faire leur café avec leur cafetière, etc. Ouais. Et là, t'essayais d'innover. Enfin, moi, je me mets à la place des gens. J'avais 5 ans, hein, mais à l'époque, de devoir mettre une capsule dans un... on se dit, mais non, mais ça n'a jamais marché. Sauf qu'en fait...
Bah c'est ça, sauf qu'en fait
vous avez changé un mode de consommation, quoi.
Bah exactement, et puis surtout on a redonné cette lettre de noblesse au café, parce que le café c'est une boisson qui est très importante, hein. C'est la deuxième boisson la plus consommée dans le monde après l'eau, et en France on en boit presque tous et presque
et
tous les
Italie,
jours hein.
Encore plus.
Et en Italie beaucoup et en fait c'était un produit qui s'était dévalorisé vraiment, c'est-à-dire que le café, l'achat de café vert, la matière première, c'était vraiment c'était comparable peut-être au pétrole, quoi. C'est une matière première qui était échangée, mais il n'y avait pas de valeur, on mettait pas ce qu'on met dans le vin par exemple, hein. C'était de l'eau avec de la caféine et puis finalement un produit qui était vendu pas très cher. Le prix n'a fait que baisser dans les cafés en fait, parce que les cafetiers, il fallait qu'ils fassent de la marge aussi, donc le prix faisait que baisser et la qualité était vraiment pas au rendez-vous, et il y avait pas ce côté café gourmet, dégustation qu'on peut avoir dans le vin en fait, quoi. Et Nespresso, je pense, avec cette disruption technologique, hein, parce que c'était cette capsule, on a redonné quand même, je pense, en tout cas en France, ces lettres de noblesse au café. Et il y a beaucoup de torréfacteurs aujourd'hui ou de cafetiers qui font des produits de bonne qualité et qui reconnaissent en fait qu'ils ont un nouvel élan possible, parce que Nespresso a éduqué le palais d'un grand nombre de Français à un café de très haute qualité, ce qui n'était pas le cas avant.
Et mais là, même en termes de branding, le nom des capsules, d'ailleurs, comme là, puisqu'on est dans les bureaux de Nespresso, j'ai vu que les salles de réunion avaient les noms des cafés Voluto, etc. Ouais. Et je trouve que c'est génial. Et comment vous avez eu toute cette idée de créer des gammes, donc en fonction des intensités, sans doute, c'est comme ça que l'idée est venue?
Bah, moi, quand je suis rentré, il y avait 4 variétés, donc il y en avait pas beaucoup. Mais après, au fur et à mesure, on a envie d'innover, quoi. Donc, on a des nez, hein, comme dans le parfum, qui créent des blends, donc ils découvrent des nouvelles provenances, des nouveaux terroirs, des nouveaux cépages, alors nous on dit pas cépages mais des variétés botaniques, et ils ont envie de proposer aux consommateurs finalement des choses un peu différentes, quoi, parce que il y a quasiment 2000 cépages, on va dire, dans le café, ce qui est à peu près l'équivalent de ce qu'il y a dans le vin, quoi. Donc il y a un champ infini donc de ces variétés botaniques qui interagissent avec des sols, avec des climats, et donc la conception en fait est infinie, donc c'est vraiment vraiment très intéressante. Et puis après il y a aussi qu'avec le développement international, mal. Quand on, suivant les pays dans lesquels on allait, on parlait de l'Italie. Quand on est allé en Italie, on n'avait aucune variété qui était assez intense pour eux, quoi. Ah ouais. Et donc on a dû développer le ristretto.
Le ristretto, oui, mais c'est tout petit en Italie. Hein.
Ouais, exactement.
Faut pas
voilà,
aimer le. Faut aller vite, quoi, quand on boit.
On comprend pourquoi ils offrent un verre d'eau en général. Avec. Et donc pour s'adapter en fait à la différence, les différents types de consommation de café un petit peu partout dans le monde, dans les pays dans lesquels on se lançait, on devait parfois s'adapter et après ça a étoffé la gamme parce qu'on proposait à peu près la même gamme dans tous les pays.
Ah non mais c'est top. Et alors là tu me parlais du coup de sol, pas de cépage, parce qu'on va peut-être pas faire du vin tout de suite, mais de sol, etc. En matière de RSE, quelles sont les actions que fait Nespresso aujourd'hui? Justement.
Alors, on a démarré notre programme de développement durable en 2003. Et en fait, on a démarré ce programme parce qu'on s'est rendu compte que on n'aurait pas assez de café de très haute qualité dans les années qui viennent. Au départ, Nespresso, c'est une invention, hein. Donc, on a inventé une capsule qui fonctionne avec une machine et qui permet de préserver le café de l'oxygène et de la lumière. Donc, le café est parfaitement frais. Et c'est grâce à ça qu'on a un café de très haute qualité parce qu'à partir du moment où il a été torréfié, il n'est plus jamais en contact avec l'oxygène et avec la lumière. Et on a acheté du café auprès de négociants et on achetait du très bon café. Sauf qu'en discutant avec nos négociants, en fait, on s'est rendu compte que ces cafés gourmets, en fait, on n'en aurait pas assez avec le développement des ventes de Nespresso. Donc, on a dû prendre des actions. Et là, une action qu'on a prise, c'est de créer un programme de développement durable en 2003. Et une des premières choses qu'on a fait, c'est on a demandé l'autorisation à nos négociants d'avoir une traçabilité à la ferme. C'est-à-dire de savoir exactement d'où venait,
voilà. Je crois que j'ai vu sur ton post LinkedIn, ouais. La traçabilité.
Donc, savoir d'où venait notre café et assurer la traçabilité financière. C'est-à-dire s'assurer que parce qu'on paye notre café à peu près 40% plus cher que le prix du marché, donc on voulait s'assurer qu'au moins 75% de ce qu'on payait allait bien dans la poche du fermier. Et à partir de là, on a pu commencer à travailler directement avec les fermiers, c'est-à-dire de se rendre compte de ce dont ils avaient besoin pour pouvoir faire plus de café de la qualité recherchée par Nespresso. Donc ça, ça a été vraiment le début du programme. Et on s'est rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut absolument qu'ils vivent de leur culture, sinon ils arrêtent. Et c'est très facile pour un fermier de passer d'une culture à une autre. Donc quand ils sont sur un beau terroir, avec un climat, avec des belles variétés botaniques, il faut absolument les encourager à continuer. Et donc il faut qu'ils gagnent bien leur vie. Et en plus de ça, il faut qu'ils aient des écosystèmes qui fonctionnent très bien pour assurer la qualité du café. Donc on a vraiment travaillé sur ces deux volets. Et alors là, je peux vous donner des millions d'exemples de ce qu'on a fait là-dedans. Mais faire en sorte que le fermier puisse vraiment gagner de l'argent et en plus de ça, qu'il puisse travailler à ce que son sol produise de plus en plus de ressources et un café de très haute qualité. L'idée à la fin dans tout ça, c'est de s'assurer que les enfants reprennent les fermes. Parce que si les gens gagnent pas bien leur vie et qu'ils ont des écosystèmes qui sont dévastés, il n'y a aucune chance pour que les enfants aient envie de faire ce travail-là.
Et donc il y a tout un suivi aussi du coup.
Donc il y a tout un suivi. On a été amené par exemple à monter en pilote avec Fairtrade International un programme de retraite en Colombie par exemple, parce que les fermiers ils partent pas à la retraite, c'est pas comme nous en France. Ouais. Hein. Donc ils travaillent jusqu'à leur dernier souffle. Donc ce qui est très important, c'est que si on veut donner envie aux enfants de reprendre les fermes, il y a un moment il faut qu'on essaie de voir si on peut mettre en place des actions qui les attirent. Et une d'entre elles, c'est par exemple de créer un programme de retraite. Donc avec le gouvernement colombien, avec la fédération des caféiculteurs colombiens et Fairtrade, on a créé en pilote un programme qui permettra aux fermiers de partir à la retraite. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et c'est des choses que on voudrait déployer après dans d'autres pays. Donc ça, c'est un exemple de choses qu'on a faites. On fait beaucoup d'agroforesterie, c'est-à-dire qu'on plante des arbres dans les plantations de café et autour des plantations de café. Ça, c'est très important parce que l'arbre, c'est lui qui fait rentrer l'eau dans le sol. Il fixe les sols aussi avec les racines et ça, c'est très important, notamment avec le dérèglement climatique, parce qu'avec les changements de température et les précipitations qui tombent tout d'un coup, on a besoin de fixer les sols. Il y a d'énormes problèmes d'érosion. Les fermiers sont obligés d'aller de plus en plus haut pour cultiver du café, donc dans de moins en moins bonnes conditions. Et puis les arbres, ils mettent de l'azote naturellement dans les sols, surtout quand ce sont des légumineuses. Et puis le caféier, c'est une essence forestière. Donc en plantant des arbres dans les plantations de café, on remet le caféier au cœur des forêts parce qu'il a besoin d'avoir au moins 40% d'ombre. Donc on va avoir des arbres avec des formes de parasols qui vont protéger les caféiers. Donc on aura la chaleur du soleil pour faire grossir les cerises de café, mais ils seront pas brûlés par les rayons du soleil et on aura une super qualité. Et puis quand on plante des arbres, on a des espèces d'oiseaux qui reviennent, on a des insectes, on a toute la biodiversité qui reprend ses droits et ça va assez vite et on a des résultats spectaculaires quand on a la possibilité de le faire.
Et d'ailleurs, est-ce que tu vois d'une année à l'autre parfois des parfums de des saveurs pour différents types de café changer, évoluer?
Alors c'est très difficile comme ça, je veux dire en goûtant quoi, mais on essaie de faire de plus en plus d'études parce qu'on voudrait vraiment démontrer que la qualité du café s'améliore avec l'amélioration des écosystèmes. Pour nous, c'est clé parce qu'on veut pas seulement le faire nous, mais on veut emmener toute l'industrie. En fait, on veut être un peu modèle là-dedans et puis pouvoir convaincre aussi les fermiers partout dans le monde que ça vaut le coup, parce que même si c'est super de faire de l'agroforesterie, il y a plein de fermiers à qui il faut les convaincre de le faire.
Puis ça leur coûte cher, non?
Alors non, parce qu'on les paye pour
d'accord.
les paye pour planter des arbres. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va sélectionner, par exemple, dans une région, on va essayer de trouver des gens qui ont le savoir-faire pour planter des arbres. Ensuite, on va monter des programmes, hein, on va faire des dessins, on va designer des dessins où on va dire on va planter là, là, là et là. On va choisir avec eux les essences d'arbres, et il faut toujours que ce soit des essences natives, sinon on crée des dérèglements écologiques. Et puis après, donc et eux, alors, ils veulent toujours des arbres fruitiers parce que ça produit
comme ça ils ont un peu
comme ça ils ont plus de revenus. Donc il faut qu'on arrive à faire évidemment.
T'as le droit à un pommier, mais après par contre tu mets ça.
Exactement. Donc il faut qu'on arrive à faire des arbres qui protègent les cerises de café, des arbres fruitiers, des arbres qui sont des légumineuses. Ça peut être aussi des arbres aussi précieux, donc des bois précieux qui vont pousser très lentement, mais par contre qui leur donneront souvent d'ailleurs ils disent que les bois précieux c'est la retraite en fait, parce que ça pousse longtemps, mais à la retraite ils peuvent les vendre et gagner de l'argent. Donc voilà, donc on essaie de faire ça, et ensuite on s'assure du suivi des arbres qu'on plante pendant 40 ans. Donc c'est pas juste on plante des arbres comme ça, c'est qu'on les paye pour ça, on fait les programmes avec eux, et après ça devient un projet collectif quoi. Parfois on a des jeunes, très jeunes, qui ont 20 ans, qui se lancent dans le programme et qui deviennent nos référents, et c'est eux qui plantent les arbres dans les régions, et c'est vraiment extraordinaire.
Génial, hein. Ah non, c'est extraordinaire. Génial, je connaissais pas toute cette facette. Moi je voulais déjà en tant que consommatrice, le recyclage des capsules, puisque pendant un moment il y avait quand même un souci un peu écologique avec ces capsules. Justement. Et mais toi, quelles autres actions t'aimerais qui sont pas encore mises en place? Toi, t'aimerais
sur le recyclage des capsules en particulier?
Pas forcément, sur toute la RSE. Non, moi je parle de celui que je vois, puisque si je dois celui que je fais aussi, c'est quand je vais amener dans les petits conteneurs.
Non, sur l'amont agricole, ce qu'on essaye de faire maintenant, ce que je voudrais, et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment de faire cet accompagnement vers le café bio ou organique, quoi. C'est-à-dire organiser.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore de gab bio.
Non, parce qu'il y en a très très peu du café bio.
Et comment tu peux labelliser un café? Ah, si, j'en ai vu, chez des.
Alors, parfois, il y a du café bio, mais il est bio parce que, par exemple, en Éthiopie, la plupart du café, il est bio parce que
pesticides.
Ben non, parce que, de toute façon, les fermiers, ils ont pas d'argent, donc ils peuvent pas acheter de. Non mais c'est vrai, mais donc en général en Éthiopie le café est bio, et là l'enjeu qu'on a en Éthiopie c'est justement la très grande pauvreté, c'est-à-dire pour recréer des filières, former les caféiculteurs, c'est très difficile, mais c'est un vrai défi et on s'est lancé dedans corps et âme, et on va réussir à créer des filières dignes de ce nom avec des gens qui seront formés, qui vont enfin gagner leur vie correctement, parce qu'une ferme en Éthiopie ça gagne quasiment rien, je veux dire c'est vraiment en Éthiopie on est vraiment confronté à la grande pauvreté. Suivant les pays avec lesquels on travaille, on peut avoir des difficultés différentes. En Colombie, on a eu beaucoup de problèmes liés à l'eau, en fait, parce qu'ils dépulpent les cerises de café souvent dans leurs fermes, mais ils font ça près des rivières. Quand on dépulpe les cerises de café, il y a beaucoup de caféine, évidemment, donc ça brûle les sols, et quand ça va dans les rivières, ça pollue les nappes phréatiques. Donc là, on crée des moulins collectifs pour eux, on essaie de les convaincre de se regrouper en coopérative pour pouvoir d'abord avoir une meilleure qualité de café, parce que quand on dépulpe avec des systèmes modernes, on habille pas les grains, et en plus de ça on sécurise que la partie environnementale qui est hyper importante. Donc dans chaque pays on a un peu des choses différentes, mais l'idée c'est d'accompagner toute cette agriculture de café dans une transition écologique qui nous permettra d'être en bio ou en organique. Ça c'est vraiment.
Et donc tu penses que c'est faisable
important.
Finalement de faire du café bio?
Je pense que c'est faisable, ça va prendre encore un peu de temps, mais on est pas mal avancé. Mais quand je vois qu'en France
aujourd'hui si on boit du café il y a des pesticides du coup dedans?
Ah ben il peut y en avoir, oui. On essaie de mettre des intrants naturels, mais effectivement, et notamment parce qu'avec le dérèglement climatique, parfois il peut y avoir aussi avec les changements de température, il peut y avoir des, par exemple, il y a une maladie qui s'appelle la rouille du café. Donc quand un fermier est en train de perdre sa ferme, est-ce qu'on l'interdit de traiter sa ferme ou pas, quoi? C'est une vraie question parce que lui, il vit qu'avec ça. Donc nous, il faut qu'on arrive à accompagner ces agriculteurs, mais faire en sorte aussi qu'ils puissent continuer à vivre, quoi. Parce que c'est bien de dire on veut du bio, mais au quotidien, il faut le faire. Mais quand je vois qu'en France, il n'y a que 6% des terres agricoles qui sont bio, Je veux dire, en France, on est un pays riche, quoi. Donc, quand on veut faire ça au Guatemala, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc, on le fait. Ça va prendre encore un petit peu de temps. On est engagé dans le processus, mais c'est pas simple.
Et du coup, pour un producteur, vous l'accompagnez pour qu'il devienne bio aussi.
Absolument.
Ouais, tout à fait.
Donc, on l'accompagne.
Ça coûte une fortune. Souvent, c'est ça le problème du bio, c'est que ça coûte une fortune aux
producteurs. Depuis le début de notre programme de développement durable, on travaille avec Rainforest Alliance, notamment pour travailler parce qu'ils étaient très forts sur le volet biodiversité. Donc, et d'ailleurs, on leur propose d'être doublement certifié du programme de Nespresso et de Rainforest Alliance, parce que l'idée, encore une fois, c'est de faire en sorte que les fermiers soient résilients, qu'ils transmettent la ferme à leurs enfants et puis qu'ils puissent être autonomes. Donc si un jour ils veulent plus travailler avec nous ou nous on veut plus travailler avec eux, ben ils sont certifiés de Rainforest Alliance, on leur finance la certification et ça leur permet de continuer à vendre leur café plus cher à d'autres. Et ça, c'est vraiment hyper important pour nous.
Donc aujourd'hui tu te reconnais complètement dans les valeurs de Nespresso, non? En même temps, t'as pas connu d'autres entreprises, finalement.
Non, puis je vois l'engagement, je vois ce qui est fait.
T'as dû voir tout monter, tout se mettre en place.
Ouais,
c'est
exactement.
Quand même dingue.
Et c'est super de voir ça, de voir une entreprise qui est finalement connectée avec son époque, quoi, qui a compris avant beaucoup d'autres le rôle de l'environnement et d'être capable, si tu veux, de ouais, de parce que en fait c'est assez unique ce qu'on fait, quoi. Je veux dire
je découvre
être en direct avec plus de 100 000 fermiers. On a 400 agronomes qui travaillent avec les fermes au quotidien, quoi. Je veux dire, c'est vraiment unique, quoi. Aujourd'hui, tous les consommateurs qui boivent du café Nespresso, ils peuvent s'assurer qu'on connaît chaque fermier par son nom et son prénom, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose
d'ailleurs
de
en
fort.
Campagne de communication, ça, vous en avez pas, vous les avez mis un peu en avant ou pas du tout finalement?
Oui, on essaie de mettre en avant. Après, c'est pas forcément toujours facile parce que on a tous envie de produire sain et de respect de l'environnement, mais les consommateurs passent pas tous beaucoup de temps à se renseigner sur les choses. Hein. Je veux dire, moi, le nombre de gens qui me disent « Ah, mais Nespresso, vous faites pas ça et tout », je dis « Si, et c'est sur notre site internet et il y a tout. Ah, mais j'ai jamais regardé. » Bah oui,
c'est compliqué
regardé.
De communiquer sans faire de greenwashing aussi.
Bah, vous donnez l'impression qu'on en fait, en tous les cas, parce que nous, on n'en fait pas, quoi. Après,
on va dire à clowner d'aller voir les fermiers.
Non, ce qui est bizarre, c'est qu'on travaille avec beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations, on travaille avec plein d'universités dans tous les pays producteurs avec lesquels on travaille, on travaille avec Pure Projet sur la plantation d'arbres, on travaille avec Rainforest Alliance, on travaille avec Fairtrade International, on travaille avec énormément de gens qui sont vraiment sur le terrain, et eux témoignent de notre engagement, mais finalement, c'est auprès du grand public où c'est plus difficile d'avoir de l'écho, quoi, parce que ils ont pas forcément. Mais je comprends, les consommateurs, ils vont pas se renseigner pendant des heures sur tous les produits qu'ils consomment.
Après, les consommateurs ont peur aussi de cette information, des médias, etc. Aujourd'hui, le consommateur se fait son propre avis.
Ouais, alors c'est un peu un problème aussi, d'ailleurs, parce que parfois, il se fait un peu son propre avis sans savoir rien du tout, quoi. Donc, ça, c'est aussi
complètement. C'est pour ça que c'est compliqué d'informer sans...
Donc, du point de vue amont agricole, on est en train de réaliser notre rêve. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ça va prendre encore un peu de temps. On est aussi neutre en carbone. Donc ça, en termes de communication, c'est pas forcément évident à expliquer. Mais
comment? C'est parce que vous compensez, du coup.
Voilà, on compense 100% de nos émissions de carbone. Alors, évidemment, on doit réduire nos émissions de carbone et on y travaille vraiment dur. Mais en attendant de pouvoir réduire toutes nos émissions de carbone, on compense 100%. Et donc, en plantant des arbres dans les plantations de café, on compense nos émissions de carbone. Je crois que c'est assez unique parce que il y a pas beaucoup d'entreprises qui compensent 100% de leurs émissions de carbone.
100%, non, tout le monde essaie de compenser quand même, mais aujourd'hui l'enjeu en effet c'est de réduire beaucoup.
Alors ce qu'on essaye de faire, c'est quand même, et c'est une méthode de travail qu'on a développée, c'est que on essaye de faire en sorte que quand on investit sur l'environnement, ça a une contrepartie économique. C'est-à-dire on essaie de créer de la valeur économique avec la valeur environnementale, parce que pour moi c'est le seul moyen de faire des choses de manière pérenne. Parce que si on dépense de l'argent dans de l'écologie, mais que on n'arrive pas à le transformer en création de valeur économique, le jour où l'entreprise va un peu moins bien, ben finalement elle arrête. Et moi je me vois pas me dire ah ben non, mais cette année je plante pas d'arbres parce qu'on a fait une année un peu difficile. Donc il faut absolument faire en sorte qu'on puisse intégrer les deux. Vraiment allier la raison écologique et économique. Donc par exemple, être neutre en carbone pour nous, ça peut être intéressant parce que d'un côté on va planter des arbres, donc on va régénérer les écosystèmes, améliorer la qualité du café, lutter contre le dérèglement climatique, et puis des entreprises qui ont choisi Nespresso comme solution dans leur bureau, on va pouvoir leur dire, si vous avez des engagements de baisser votre empreinte carbone, ben déjà sachez que en buvant du café Nespresso dans vos bureaux, et ben nous on compte pour zéro. Ouais. Et donc là, on peut avoir un argument commercial vis-à-vis des entreprises qui travaillent avec nous, qui peut nous créer de la valeur économique en même temps qu'on a créé de la valeur environnementale. Donc dans tout ce qu'on fait, on essaie de faire ça. Et c'est une vraie méthode parce qu'on essaie de se dire à chaque fois, ok, on peut faire ça pour l'environnement, mais est-ce qu'on peut créer de la valeur économique? Parce que quand on y arrive, on s'assure de la pérennité.
Oh, mais c'est top. Est-ce que t'as envie d'ajouter des choses?
Ah ben, je voudrais ajouter plein de choses sur le recyclage, sur la capsule. Je voudrais dire d'abord qu'il n'y a pas d'aluminium dans le café Nespresso, parce qu'il y a un fantasme autour du fait qu'il y a de l'aluminium dans le café Nespresso.
Il y a
toujours des rumeurs sur ça.
C'est pourquoi c'est au goût, ils ont l'impression qu'il y a du...
Non, mais je pense parce que voilà, le café
capsule,
dans la capsule.
Quoi, ouais.
Donc on est testé dans tous les pays du monde, je veux dire, dans tous les pays du monde, ils regardent si on a de l'oxratoxine, des nanoparticules, du bisphénol. Il n'y a pas d'aluminium dans le café Nespresso. Il y en a
qui se demandent la mousse, c'est quoi? C'est des agents.
Donc il y a pas d'aluminium qui provient de la capsule dans le café Nespresso. Il y a de l'aluminium dans le café, mais il provient du sol en fait. Donc quand on se fait un café filtre, on utilise plus de café, donc on a beaucoup plus d'aluminium dans un café filtre que dans un café Nespresso. D'accord. Mais il y a rien qui vient de la capsule. Donc ça, je le dis vraiment.
Tout à fait.
Et je peux le prouver scientifiquement. Et on met rien du tout de qui fait mousser le café.
C'est sa façon de le produire.
Non, ce qui fait mousser le café.
Il y a pas d'agent moussant.
Non, pas du tout. D'ailleurs, on serait.
J'aurais trouvé mon savon.
Ouais. Alors, s'il y avait du savon dans le café, on sera obligé de le mettre sur l'emballage quand même.
Ouais, non, mais c'est vrai.
Donc il y a que du café dans la capsule, et ce qui fait qu'il mousse, c'est parce qu'il est frais. Parce qu'à partir du moment où il a été torréfié, il est jamais en contact avec l'oxygène et la lumière. Donc tout d'un coup, quand il se retrouve en contact avec la pression et tout d'un coup il est en contact avec l'oxygène, il crée de la mousse. Quand vous avez un café qui mousse pas chez vous, c'est qu'il est pas frais. Voilà. Donc je voudrais juste dire que la capsule, elle est recyclable à l'infini. Ce qui fait de l'aluminium un des matériaux quand même pour moi les plus vertueux, et que on a mis en place depuis 10 ans un système qui permet à 90% de nos clients de recycler à proximité. On a 5000 points de collecte en France, et que depuis 10 ans on s'est mis en quête de changer le système de tri des métaux, c'est-à-dire de faire en sorte que chez nous on puisse trier tous les métaux dans le bac de tri sélectif. Donc n'importe quoi qui contient du métal, un couvercle de pot de yaourt, de la vache qui rit, de la feuille d'alu, des barquettes en alu, tout ce qui contient du métal, on puisse le mettre dans la poubelle jaune. Je me suis investi personnellement depuis 10 ans là-dedans, et aujourd'hui on a des résultats spectaculaires. On a déjà à Paris, tous les Parisiens peuvent trier maintenant l'aluminium dans la poubelle jaune, et on y est en grande partie responsable. On a beaucoup investi dans cette filière, et on est en train de déployer ça. Aujourd'hui, on a 25% des Français qui peuvent recycler tous les métaux dans la poubelle jaune. D'ici 3 ans, on sera à 50%. Et je pense que dans quelques temps, on va devenir, aux yeux de la population, un des matériaux les plus vertueux en matière écologique. Et ça, j'en suis vraiment convaincu. On est en train de faire des progrès vraiment considérables.
C'est génial.
Ouais, c'est génial.
Et
ce qui est génial,
ça,
c'est que en fait, on a même créé un fonds de dotation. Chaque centre de tri en France qui s'équipe des machines qui permet de recycler tous les métaux, il est financé par Nespresso quand même. Hein.
Ah ouais.
Donc, c'est grâce à Nespresso que vous pouvez recycler les papiers d'aluminium et les barquettes en alu chez vous. Quoi. On paye ça aussi. Quoi. Donc, faut quand même le savoir. Donc, c'est 10 ans de travail, mais on a des progrès considérables, et bientôt, il y aura le verre qui sera bien recyclé, le papier, le carton et l'aluminium.
Super. Ouais, donc, j'ai appris plein de choses. Hein. Comme quoi, maintenant, je pourrais consommer plein de café sans me dire, bon, là, j'ai trop de savon.
Ouais, et peut-être une dernière chose, c'est que, et ça, c'est scientifiquement prouvé, et dans beaucoup de pays, ils ont fait des études, il n'y a pas plus d'impact carbone d'une capsule Nespresso que d'un café filtre.
D'accord.
Et notamment parce que quand on fait un café filtre, on utilise beaucoup plus de café que dans une capsule Nespresso. On
dose trop. Et même avec l'eau, non, la consommation d'eau.
Et en plus avec, ben oui, parce qu'on fait chauffer plus d'eau.
C'est ça, on fait chauffer, on jette le reste.
Ouais. Et donc, et on en jette beaucoup. Donc en fait, je veux aussi rassurer sur le bilan écologique de Nespresso. Il est pas moins bon que celui d'une. Il est pas moins bon que celui d'une cafetière filtre. Et en plus de ça, nous, on compense 100% de nos émissions de carbone. Donc on neutralise à 100% l'impact qu'on a sur l'environnement.
Mais c'est top. Merci beaucoup. Hein.
Merci de m'avoir
sollicité. Je suis ravie. Merci d'avoir écouté l'empreinte, et vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Spotify et sur toutes les plateformes de téléchargement. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast, et puis suggérez-moi des profils aussi intéressants que celui-là. Je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.